Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Cette année 2022 marque le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, un conflit qui a conditionné et conditionne encore les relations entre la France, ancien pays colonisateur, et l'Algérie, le colonisé. À cette occasion, de nombreux ouvrages sont sortis cette année, et notamment deux livres écrits par l'historienne Raphaël Branche, spécialiste des violences en situation coloniale, dont le travail de recherche ces dernières années se concentre sur le drame algérien. Deux ouvrages qui prennent appui sur les témoignages d'acteurs de ce conflit, de part et d'autre de la Méditerranée. Un entretien qui constitue le second volet de notre série estivale consacrée au 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Bonjour Raphaël Branche.
Bonjour Éric Bataillon.
Historienne, vous avez publié récemment deux ouvrages sur le conflit franco-algérien. En mars de cette année, En guerre pour l'Algérie, dont nous avons parlé à l'occasion de la diffusion de la série documentaire éponyme sur la chaîne Arte et sur arte.tv. Et en février, Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? En poche, après une première sortie en 2020 aux éditions de La Découverte. Dans ce second livre, le premier donc chronologiquement, vous interrogez l'impact que le conflit franco-algérien a eu sur les familles des jeunes appelés français qui ont combattu en Algérie, en constatant que c'est bien une génération complète qui a été concernée par ce conflit.
Alors oui, tout à fait, c'est une génération au sens démographique, c'est tout simplement les hommes de 20 ans, tous les hommes de 20 ans qui sont partis en Algérie entre 1954 et 1962, donc à peu près tous les hommes nés entre 1934, 35, 36 en réalité, et 1942. Donc ça fait effectivement beaucoup. Pour parler d'une génération, il faut autre chose, mais on a en tout cas un bon morceau de la démographie française. Oui.
Dont vous avez obtenu les témoignages, de quelle façon eux et peut-être leur famille ?
Alors j'ai effectivement, depuis que je fais de la recherche en histoire, on appelle ça faire de l'histoire du temps présent, je travaille avec les témoins et donc j'ai toujours fait autant que possible des entretiens avec les témoins. Et donc là j'ai fait la même chose pour ce livre en élargissant en fait la recherche non seulement aux anciens combattants mais à leurs épouses, à leurs enfants et à leurs frères et sœurs. Et donc c'est tous ces membres-là de la famille qui sont l'objet de l'enquête. Et donc, je les ai trouvés par un système de boule de neige en demandant aux uns et aux autres de me mettre en contact avec les uns et les autres et puis aussi avec l'aide d'associations d'anciens combattants.
Enquête intéressante parce que au plus près des personnes et des familles avec des opinions qui ne sont pas toujours les mêmes et beaucoup de non-dits aussi.
Heureusement. Non, quand on fait ce genre d'enquête, il faut évidemment faire très attention à ne pas être dans une seule voix, qu'il n'y ait pas qu'un seul son de cloche. Donc une fois que j'ai récolté tous ces questionnaires, en fait c'était une enquête par questionnaire au départ, puis par entretien, j'ai fait un contrôle a posteriori en fait du corpus pour justement éviter ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y ait trop, je ne sais pas, d'urbains, de communistes, voilà. Donc bien sûr que les Français sont divers à cette époque, même s'ils partagent un certain nombre de points communs, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant dans le livre, et notamment qui me fait parler d'une génération, ils partagent en particulier une enfance au temps de l'occupation, de l'occupation allemande en France. Et c'est cet élément-là qui me fait parler notamment d'une génération.
Oui, ces jeunes appelés ont vécu, enfants, la Seconde Guerre mondiale. Ils ont aussi entendu les récits de la Première Guerre par leurs grands-parents. Et on les envoie rétablir l'ordre, c'est comme ça qu'on dit à l'époque, oui. Et non faire la guerre en Algérie, département français. Diriez-vous qu'ils avaient un poids particulier sur les épaules ?
Alors oui et non, parce qu'en même temps, ils font ce qu'on a toujours fait avant eux, c'est-à-dire que ça fait depuis 1872 que la conscription est universelle en France, donc tous les hommes font le service militaire. Donc en fait, ils attendent leur heure, et quand ils auront 20 ans, ils partiront pour 18 mois, ils le savent. Donc un fardeau, non, plutôt un devoir patriotique, attendu, peu discuté à l'époque en France, peu contesté. Et donc, de ce point de vue-là, quelque chose finalement d'assez banal. En réalité, ce qu'ils vont trouver en Algérie sera tout sauf banal et la guerre va exploser au visage d'un certain nombre d'entre eux. On a un décalage entre ce qu'ils s'imaginent quand ils sont en France et qu'ils partagent avec leurs proches, une forme d'inconscience de ce qu'ils vont trouver en Algérie, et puis la réalité du terrain algérien. au fur et à mesure de la guerre. Ceci dit, la réalité du terrain algérien échappe de moins en moins.
Justement, dans votre livre, vous insistez sur la correspondance que ces jeunes entretiennent avec leur famille. Que disent-elles ces lettres sur la vie quotidienne en Algérie ?
Alors, elles sont des sources extraordinaires, hein, effectivement, pour documenter la vie des soldats, mais au-delà de cela aussi, ce qu'ils observent, ce qu'ils comprennent. Donc, pour documenter leur vie en Algérie, on en apprend un certain nombre de choses. Et pour ce qui m'intéressait à savoir dans quelle mesure leurs correspondances ont permis à leur famille de comprendre ce qu'ils vivaient, la réponse est dans une faible mesure, puisque l'essentiel de cette correspondance vise à dire « je vais bien, ne vous inquiétez pas, voilà, je pense à vous ». Et surtout, ne m'oubliez pas. Donc, en gros, c'est autour de ça que tourne l'essentiel de la correspondance, évidemment avec des nuances quand c'est la femme qu'on aime, mais en gros, c'est ce genre de choses qui donnent peu à voir, finalement, à la réalité de la guerre.
Justement, sur la guerre, que disent-ils lorsqu'ils disent quelque chose?
Alors, quand ils disent quelque chose, ils disent le colonialisme, ils disent le choc d'être là pour défendre la France, mais est-ce que c'est vraiment la France? Donc, il y a une vraie interrogation sur la France qu'ils trouvent en Algérie, puisqu'il faut bien savoir que les soldats sont essentiellement basés dans le bled, donc loin des villes européennes, loin des villes à l'européenne, dans un monde qui est très éloigné quand même de la France. Et quand ils parlent de la guerre, ils décrivent les embuscades, ils décrivent les conséquences des embuscades et ils décrivent parfois la mort, mais vraiment peu. Et puis, toujours pour dire que ça ne les concerne pas et que ça touche d'autres gens.
Est-ce que ces lettres, ces correspondances disent toujours la vérité?
Alors sans doute, il faudrait demander à leurs scripteurs s'ils ont dit la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de mensonges par omission dedans.
De choses cachées peut-être?
Ils étaient rares à craindre la censure en tout cas, puisqu'il n'y avait pas de censure à l'époque, mais il y avait de l'autocensure, c'est absolument certain. Donc bien sûr qu'il s'agit de ne pas inquiéter. Donc je pense par exemple à tous ces soldats qui racontent, parce qu'ils savent que l'information va arriver en France d'une manière ou d'une autre, donc ils racontent, oui, il y a eu une bombe, effectivement, dans la ville où je suis basée, mais c'était à l'autre bout de la ville, et puis moi je ne sors jamais du casernement, donc il n'y a aucun souci. Donc il y a une espèce de demi-vérité en fait, souvent, et puis bien sûr des pans entiers de leur expérience qui est passé sous silence.
Que se passe-t-il au retour de ces jeunes appelés? La parole est-elle libérée ou au contraire, les mémoires se ferment-elles?
Alors, ils rentrent pour certains pendant la guerre, puisque en fait, à la différence du conflit mondial, il n'y a pas de mobilisation, puisque ce n'est pas la guerre. Il n'y a pas de mobilisation générale. Donc, ils rentrent à la fin de leur service militaire de manière complètement perlée. Et donc, il n'y a pas de visibilité du moment du retour socialement. Donc, les seules personnes que ça intéresse, finalement, sont leurs proches et éventuellement leur employeur. Donc, de fait, ces gens-là posent quelques questions. Mais très vite, on passe à autre chose. En fait, c'est vraiment ça qui domine. C'est pas forcément le désir de ne pas en parler de leur part ou de ne pas interroger pour les autres. C'est juste qu'on passe à autre chose avec un sentiment assez aigu que ce temps a quand même été très long parce qu'ils sont partis pour 18 mois. Mais en fait, le temps sous les drapeaux a été prolongé parce que la guerre a eu ses nécessités. Et donc, certains ont pu passer jusqu'à 32, 33, 36 mois en Algérie. Donc, c'est colossal à l'échelle d'une vie. Et donc, beaucoup ont le sentiment, parmi les soldats, parmi leurs familles, qu'il est temps de vivre la vie qui attend après. Et donc, on a hâte que ça passe et donc le récit sera pour plus tard.
Raphaël Branche, dans votre livre, vous parlez de synchronie impossible pour les jeunes couples qui se forment au retour des appelés. Que voulez-vous dire par là?
En fait, beaucoup ont connu la femme avec qui ils ont envie de vivre avant de partir. Et en fait, les couples se sont consolidés dans l'absence ou d'ailleurs se sont brisés dans l'absence puisqu'ils n'ont pas tenu l'absence. Et donc, il est difficile quand on est un couple, même aujourd'hui, on peut l'imaginer, à distance, de maintenir la synchronie, c'est-à-dire d'être dans le même temps, hein, de vivre ensemble les mêmes émotions, par exemple. Donc, à distance, l'un en guerre, l'autre en France. Et puis donc, au retour, eh bien, parfois, on a du mal à se parler, à se connaître, à se toucher, à partager. Et donc, les couples se dissolvent parfois au retour de la guerre ou, inversement, se forment très vite. Des couples se forment un peu en catastrophe pour rattraper ce fameux temps perdu. Et un certain nombre d'hommes m'ont dit, et de femmes d'ailleurs aussi, m'ont dit s'être mariés trop vite pour effacer la guerre, mais sans avoir pris le temps de se connaître.
Ce silence que l'on entend finalement au retour de tous ces appelés, ce silence va durer longtemps?
Oui, le silence dure longtemps, même s'il n'y a pas vraiment de silence au sens absolu. Mais en tout cas, la parole confiante, la parole qui attend d'être accueillie, qui sait qu'elle va pouvoir être écoutée. Cette parole-là, elle met du temps à trouver son chemin dans les familles, effectivement. Et donc, j'essaye d'identifier des moments où elle est plus facilement possible. Et effectivement, pour beaucoup, c'est au bout de 30 ans, 40 ans.
Est-ce que cette parole se libère pour ces personnes qui se sont tues pendant longtemps ou est-ce une génération suivante, les enfants ou les petits-enfants, qui déclenchent cette parole?
Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, la parole, elle ne se comprend pas qu'en fonction de l'émetteur. C'est pas simplement la personne qui parle ou qui se tait, il faut qu'il ait en face de lui des gens qui ont envie d'entendre, en fait. Et donc, c'est évidemment une des clés de l'explication de pourquoi à certains moments plutôt qu'à d'autres. Parce qu'à certains moments, il y a des gens qui sont intéressés et à d'autres, moins. Donc, effectivement, les petits-enfants, et ça, c'est un grand classique de l'étude des mémoires, les petits-enfants sont souvent plus réceptifs aux récits des grands-parents que les enfants aux récits des parents, pour des raisons qui ont à voir avec ce que c'est qu'une famille, tout simplement. Donc, on retrouve cette loi, presque, pour la guerre d'Algérie. Mais déjà, avec les enfants devenus adultes, les choses ont pu être échangées. C'est aussi une question de disponibilité sociale, de ce qui existe au-delà de la famille, dans la société, sur la guerre d'Algérie, et notamment le fait qu'on l'enseigne à l'école, fait que des questions peuvent être, d'une certaine manière, rapportées à la maison par les enfants, et surtout par les petits-enfants, en disant « mais on m'a parlé de ça, mais et toi alors qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ? » Et donc c'est bien plus tard que dans ces cas-là, les hommes se sentent parfois autorisés à répondre.
Est-ce que cette parole libérée donne un éclairage nouveau sur ce conflit que l'on étudie à l'école depuis de nombreuses années ?
Il faudrait demander à ceux à qui elle s'adresse, mais en tout cas, elle donne un éclairage nouveau sur les hommes de la famille. Ça, c'est absolument certain. J'en ai de multiples témoignages, de vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la découverte. J'ignorais complètement que mon père, mon frère, sans doute mon mari, en fait, aussi, pour certaines femmes, étaient passés par là. J'ai, en fait, pour le travail que j'ai mené, envoyé des questionnaires aux membres de toute la famille. Et donc, j'avais des questions similaires qui étaient posées et des réponses très différentes. Par exemple, sur les cauchemars. Certains disaient ne pas faire de cauchemars alors que leurs femmes se souvenaient de leurs cauchemars, que leurs enfants se souvenaient des cris la nuit. Ou des récits, ils n'en parlent jamais, et puis l'ancien combattant racontant qu'il en avait à plusieurs fois parlé et qu'on lui avait toujours coupé la parole. Donc il y a bien des choses qui ont circulé. Après, il a fallu que ce soit entendu. Et effectivement, quand on est prêt à entendre, on découvre.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous sommes en compagnie de l'historienne Raphaël Branche pour évoquer la guerre d'Algérie à travers les témoignages qu'elle a pu recueillir et qui alimentent deux livres, « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» et « En guerre pour l'Algérie », ce dernier faisant l'objet d'un documentaire. Dans ce second livre sorti en mars, le titre laisse supposer que les deux camps se battaient pour l'Algérie, donc pour la souveraineté de ce territoire. Est-ce l'effet recherché, avec le S entre parenthèses pour « guerre » ?
Alors justement, dans le S, il n'y a pas que deux camps. Précisément, le projet du film, notamment, et ce que le livre raconte aussi, c'est que plein de gens se sont engagés pour l'Algérie et les Algériens d'une manière différente. Et donc, on ne peut pas réduire cette guerre à une opposition entre deux principes nationaux. Bien sûr que c'est cela. Mais à l'intérieur de ce gros découpage, il y a plein d'autres possibles, et il y a eu plein d'autres formes d'engagement.
Y compris d'ailleurs des Algériens dans le camp français, des Français dans le camp algérien, des Marocains pour aider un camp ou l'autre, etc.
Absolument. Et effectivement, c'est important de rappeler que les Algériens étaient français à l'époque, qu'ils étaient, par exemple, conscrits, comme les autres, sous le drapeau français. On les confond souvent avec les harkis, ça n'a rien à voir. Ils étaient appelés, conscrits, obligatoirement obligés de faire leur service militaire. Donc effectivement, on retrouve la complexité du monde colonial dans les différents parcours qu'on raconte. Et cette guerre n'est pas effectivement sur le modèle de la guerre franco-allemande, par exemple, pas du tout.
Ce qui est rappelé dans votre livre, et ce sont des témoignages convergents, c'est que les colons initiaux, venus donc au début du 19e siècle, se sont emparés des bonnes terres pour les exploiter.
Le principe de la colonisation, en tout cas en Algérie, c'est d'implanter une population d'origine européenne. Donc, par définition, on l'implante là où elle a des chances de pouvoir rester. La colonisation a en fait été très largement un échec. La colonisation agricole, elle a été très dure pour des corps européens pas habitués finalement aux conditions sanitaires, aux maladies climatiques de l'Algérie. Donc, beaucoup de villages de colonisation ont échoué. Mais effectivement, par définition, on cherchait les meilleures conditions possibles. Et donc, la plupart du temps, bien sûr, les meilleures terres.
Vos témoignages viennent des deux côtés de la Méditerranée. 15 témoignages d'hommes et de femmes. Comment les avez-vous trouvés ?
Alors, nous avons recueilli pour la collecte patrimoniale dont est issu ce livre, près de 70 témoignages de part et d'autre de la Méditerranée. On les a trouvés par un système de bouche à oreille, de réseaux divers. On a demandé aux historiens, aux historiennes qui connaissaient des témoins de nous les indiquer, de leur expliquer d'ailleurs notre démarche. On est passé par des associations. On a essayé vraiment de faire feu de tout bois. Cette collecte a été réalisée en temps de Covid la circulation entre la France et l'Algérie n'était plus possible, donc ça a compliqué beaucoup notre travail, mais nous avons réussi finalement. Certains de nos témoins sont morts aussi pendant la collecte. Enfin, on a senti vraiment le poids de la démographie, du contexte sanitaire. Et bon, et néanmoins, ça a eu lieu et je suis notamment très frappée du fait que toutes ces personnes très âgées, en dépit de ces risques sanitaires que leur faisait courir le fait d'être en contact avec une équipe de production, ont toujours accepté.
Est-ce que ces témoignages de base, donc au plus près des populations, montrent deux Algéries face à face?
Oui, puisqu'on a demandé aux gens qui, à l'époque de la guerre, étaient des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes, de nous raconter leur vie quotidienne en réalité, heurtés par la guerre, bouleversés par la guerre, parfois à peine effleurés par la guerre. Quand il s'agit par exemple d'une petite fille des quartiers centraux d'Alger qui n'a pas vu grand-chose avant les dernières années par exemple. Donc on est vraiment parti de leur vie quotidienne. Et donc à partir de là, la diversité sociale, elle explose, elle est énorme. La diversité géographique, l'Algérie est un immense pays. Donc on a un petit berger des Aurès, comme un homme qui vient d'un petit village de Kabylie, mais aussi les quartiers espagnols d'Oran. Donc bien sûr que les vies, les Algéries hein, qui émergent de ces récits sont diverses.
Et les témoignages sont même parfois contradictoires, chacun voyant cette période en fonction de ce qu'il a vécu lui ou elle. Est-ce que cela empêche malgré tout d'avoir une idée assez claire de la situation?
J'espère que non. J'espère vraiment que non, puisque la complexité du monde, c'est le monde. Voilà, donc le simplifier, ça permet peut-être parfois d'avoir l'impression qu'on le comprend mieux, mais je ne suis pas sûre. Là, en l'occurrence, il faut vraiment qu'on saisisse bien les caractéristiques de la colonisation. La guerre arrive sur ce terreau-là, c'est-à-dire un terreau de discrimination, un terreau d'injustice, de droits bafoués, quelque chose d'assez compliqué pour la République quand même. Et comprendre les effets de tout cela dans la vie des gens, il me semble que ce n'est pas parce que les choses ne sont pas vécues de la même manière d'un quartier à l'autre qu'elles n'en sont pas moins injustes.
Dans ces témoignages, on ressent à la fois une nostalgie, de l'incrédulité, du ressentiment parfois concernant cette guerre. Est-ce ce qui explique que les plaies ont encore beaucoup de mal à se refermer 60 ans après l'indépendance ?
Ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui parlent là ont accepté de le faire, dans la compréhension du projet, qui était des voix multiples de tous les horizons. Et donc d'être dans un projet avec des gens avec lesquels on n'avait rien à voir hein, pendant la guerre. Donc je crois que tous œuvrent à ce que la connaissance progresse, à ce que les histoires soient transmises. Peut-être c'est leur manière à eux aussi de penser les plaies.
On a entendu d'ailleurs pendant le Hirak, lorsqu'il y avait des manifestations avant la pandémie du Covid, réclamer enfin l'indépendance, alors que l'indépendance existe depuis 60 ans.
Oui, la mémoire de la guerre d'indépendance est un réservoir assez inépuisable de références politiques pour la société algérienne, pour l'État algérien, pour tous les acteurs de la vie politique algérienne et aussi pour le peuple algérien. Donc on n'est pas du tout étonné de voir ces références. Et cette idée de la révolution confisquée, de l'indépendance confisquée, est un lexique qu'on retrouve dans de nombreux autres pays, qui renvoie à ce qui est censé être l'origine, les fonds baptismaux du régime et une forme de promesse trahie. Il faut bien savoir que ceux qui brandissent ces slogans sont nés parfois 40 ans après, hein, donc on est dans une représentation aussi de tout cela.
Si cet apaisement ne peut pas passer par le niveau officiel, peut-il se faire au niveau des populations, des individus?
Mais je pense qu'il est déjà fait, depuis bien longtemps. Moi, je ne suis pas partie des gens qui considèrent qu'on est en guerre, que les mémoires sont en guerre. Je ne crois pas du tout que ce vocabulaire soit adapté et corresponde à la réalité de nos peuples. Enfin, voilà, les Français, les Algériens communiquent, vivent ensemble, se parlent, échangent. Voilà, la guerre fait partie d'un passé compliqué. Le colonialisme, la colonisation, bien sûr, aussi. Mais enfin, bon, tellement de gens d'origine algérienne habitent en France, le français a encore sa place en Algérie. Enfin, voilà, je crois que c'est plutôt. Oui, l'avenir est évidemment du côté des peuples, de mon point de vue.
Merci, Raphaël Branche.
Je vous en prie, Eric Bataillon.
Votre livre, Papa, qu'as-tu fait en Algérie, publié en 2009 aux éditions La Découverte, est ressorti en février, cette fois en poche. Quant à votre second ouvrage, En guerre pour l'Algérie, sorti en mars, il a fait l'objet d'une série documentaire en 6 épisodes, diffusée sur la chaîne franco-allemande Arte. Mathias Golshani a mis en onde et réalisé ce nouveau numéro d'Orient Hebdo que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site RFI.fr et aussi sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, prenez soin de vous, à suivre le journal.